On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Familial et traditionnel, vous avez les deux mots principaux de la cuisine corse. Noustral.
Noustral, c'est traditionnel.
Voilà. De chez nous, voilà. A nostra cugina corse.
La morphologie du cochon et la couleur, c'est vraiment le noir.
Mais là, derrière, effectivement, il y a la montagne, donc voilà. Ils sont dans le maquis, après ils se baladent.
Voilà, là, il y en a des châtaigniers. Parce que le cochon mange jusqu'à 7 kilos par jour de châtaignes.
Ah, moi, je produis de la tomme et un fromage typique de la région d'Ajaccio qui s'appelle le basilicache. C'est un fromage qui est fabriqué avec du lait de brebis ou de chèvre corse.
Elles vivent en liberté, elles se baladent et elles mangent de tout. Et
là, par exemple, donc, elles vont consommer des glands, des pousses d'arbousier, de bruyère. Et c'est tout ce mélange qui fait la particularité organoleptique de notre lait. Hein.
Comment on dit on va déguster?
Aem anasalia.
Avec un peu d'imagination, nous pourrions être au hasard dans le désert des Agriates, dans la vallée de Prunelli, en Castaniche, parce que ça sent l'immortel à plein nez. Quel parfum! Merci beaucoup à Nicolas Stromboni, notre invité. Bonjour Nicolas.
Bonjour François Régis.
Quelle odeur.
Bonjour à toutes et à toutes.
Voilà l'odeur de la Corse.
L'odeur de l'immortel, c'est l'odeur emblématique quand on arrive à l'aéroport de Figari et que il fait chaud, la chaleur fait ressortir tous ces parfums et on s'en prend plein le nez. C'est ce qu'on a dans le studio. Et
cette odeur épicée, cette odeur un peu de cumin, c'est vraiment. Hein, on a des bouquets de fleurs séchées, d'immortels séchés. Là, voilà, la Corse, elle est dans nos studios de la maison de la radio. Merci d'être là. Vous imaginez à quel point je suis heureux de faire cette émission sur l'île de beauté, même si je suis un peu de parti pris. J'ai une relation très intime et familiale à cette île. Ça commence à savoir. Et l'île de beauté fait aujourd'hui étalage de ses meilleurs trésors gourmands grâce à Nicolas Stromboni, un Ajaccien épicurien qui ne passe pas inaperçu. Vous collectez de vieilles recettes de famille du nord au sud. Vous possédez la plus belle collection de vins corses au monde. Vous avez d'ailleurs été élu, Nicolas, meilleur caviste de France en 2011. Et vous avez un restaurant cave à vin à Ajaccio dont vous pouvez nous donner l'adresse.
Alors, la cave à vin s'appelle Le Chemin des Vignobles et se situe au 16 avenue Noël Franchini.
À Ajaccio, la capitale corse. Du pain, du vin, des oursins, c'est le voyage culinaire incroyable que vous publiez aux éditions Marabout, avec des recettes, des produits, des portraits, on va le voir ensemble, des photos superbes signées Sandra Mahut. Je l'ai à mes côtés, c'est un très très bel ouvrage pour vraiment apprendre à cuisiner corse. Pour explorer le patrimoine culinaire corse, il faudrait au moins 5 émissions. Nous, on vous propose aujourd'hui un survol, un premier coup d'œil à travers des traditions, des spécialités, des recettes. Et surtout, on va se positionner à l'automne et en hiver, ce qui est un peu original en Corse. Impossible d'évoquer la cuisine corse sans prendre le maquis. Et ça, c'est Lénora Krief qui est partie prendre le maquis. Bonjour Lénora.
Bonjour François Régis.
Vous en avez fait des virages dans les montagnes corses.
Oui, et impossible de faire l'impasse sur le fromage et la charcuterie. Je vous parlerai de cette fameuse charcuterie traditionnelle de Port Noustral et d'un fromage à pâte molle et croûte fleurie, le basilicaccia.
Charcuterie et fromage, deux voyages sonores qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Également avec nous aujourd'hui, notre chroniqueuse Estherelle Payani. Bonjour.
Bonjour François Régis.
Est-ce que vous aimez le brucio?
J'adore, mais il n'y a pas que le brucio dans la vie.
Ce fromage frais hein, de brebis ou de chèvre.
Eh bien,
il a des cousinages.
Il a une grande famille que j'ai très envie de vous faire découvrir, tous les fromages à base de petit lait.
Recette à l'appui.
Des pancakes.
Ouais, une très très belle recette de pancakes, on va voir ça avec vous. À la console, Michel Billou et Loïc Frapsos, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission, Djoubaka pour la programmation musicale. Forza Cugina Corsa, vive la cuisine corse.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Du pain, du vin, des oursins, Nicolas Stromboni, ça ne vous dérange pas trop de détourner un slogan industriel?
Et le slogan c'était du pain, du vin?
Ah, ça je ne sais pas si on peut le dire.
En tout cas, ça reste dans les mémoires, ça rythme et si on retient le titre, je crois que c'est essentiel.
L'oursin?
Très beau produit. Oursin, produit d'hiver, bien évidemment. Alors, ce livre parle du fabuleux patrimoine gastronomique. Et vous avez dit que c'était un patrimoine qu'on pouvait étudier en hiver et en automne, mais c'est un patrimoine qui s'étudie tout au long de l'année, même l'été, si on veut faire l'effort de sortir des grands axes routiers.
L'écorce pique d'oursin, sans jeu de mots, c'est vraiment un produit de la mer auquel le peuple corse est très attaché. Ouzinou, c'est ça en Corse, hein?
C'est un produit de cueillette, c'est un produit de fête, c'est un produit qu'on ne mange jamais seul. C'est généralement réservé aux grandes oursinades le dimanche et c'est toujours un moyen de rassembler petits et grands autour de finalement d'un mets très simple mais à la fois très complexe.
Ça sent le vécu. Alors la saison de l'oursin, c'est entre le 15 décembre et le 15 avril. Comment ça se passe concrètement quand vous voulez en Corse, près d'Ajaccio, là où vous habitez, déguster des oursins? J'imagine que c'est déjà les pieds dans le sable et au bord de l'eau.
Déjà, il faut se téléphoner pour réunir les amis, ça c'est la première chose.
Le téléphone corse qui marche mieux que le téléphone arabe.
Il faut trouver une très très belle fougasse, parce que l'oursin s'accompagne d'une belle fougasse, d'un très beau vin blanc qu'il faut essayer de maintenir frais. Et puis ensuite, on retrousse le pantalon parce qu'on n'a pas besoin de se baigner beaucoup, il faut juste tremper les pieds, se baisser. Pour cueillir, il faut se baisser un peu, même chez nous, François-Régis. Mm-hmm. Et puis, il faut ouvrir les oursins très délicatement, sans se blesser. Prendre une petite une tranche de pain, délicatement récupérer le corail, en évitant de manger le sable. C'est pas très agréable. Mm-hmm. Et ensuite, il faut laisser venir le reste.
Les langues d'oursins. Les gonades, on peut dire aussi. Hein, c'est cette espèce de corail orange, effectivement, qui a un goût très particulier. Vous avez d'ailleurs une prose très habile, Nicolas Stromboni, pour définir le goût de l'oursin. Je vous cite. Au premier-né, des arômes marins et végétaux. Une odeur envoûtante et engageante. En bouche, tout fonctionne par petites touches graduelles. Une impression crémeuse, iodée et légèrement doucereuse au premier contact. Puis des notes balsamique, empyromatique, de laurier et de poivre timut se combinent pour faire naître une saveur impensable.
Simple et complexe.
On peut déjà vous dire que vous savez bien écrire.
Merci.
Et analyser effectivement la complexité de ce goût de l'oursin qui mêle à la fois l'acidité, la suavité, le salé, même l'amertume.
Ouais, la texture de l'oursin est très très intéressante. C'est vrai que dans ma manière d'écrire, j'ai une approche plutôt de sommelier, donc je décortique un petit peu les plats comme on pourrait décortiquer un vin. Et c'est ce qui est très marrant, parce que l'oursin, c'est un plat, quand on l'accommode d'une brouillade, c'est un plat qui est merveilleux. Il y a besoin de pas grand chose. Alors je précise, l'oursin de Méditerranée, c'est un oursin qui est extrêmement complexe, parce que c'est un petit oursin, c'est un oursin endémique qui fonctionne très très bien sur des associations avec l'œuf, par exemple.
C'est des saveurs plus concentrées, non ?
C'est extrêmement concentré. Et c'est vraiment, vous parliez de texture. Alors c'est une texture qui est fondante, qui est granuleuse. Et en termes de saveurs, on a presque les quatre saveurs, hein, l'acide, l'amer, le sucré, le salé.
Tentons de définir un petit peu la cuisine corse. Vaste entreprise, me direz-vous. Tant ce patrimoine est riche et complexe. Vous mettez un peu les pieds dans le plat en préambule de votre livre, Nicolas Stromboni, en affichant vos opinions. La Corse est une île, une montagne, une plaine, une succession de vallées cloisonnées. Parce qu'elle est au centre de la Méditerranée, parce qu'elle est terre d'accueil, parce qu'elle a reçu et offert au fil du temps, elle possède un trésor incomparable, inégalé, le patrimoine gastronomique le plus riche de France.
Ça vous gêne, François-Régis ?
Justifiez-vous.
Ça vous gêne ?
Ça vous... Pas du tout. Au contraire, ça m'arrange.
En tout cas, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est d'interpeller. Visiblement, la phrase vous interpelle. Donc ça, c'est déjà une première chance. Alors, effectivement, elle a un patrimoine qui est important. L'idée, c'est pas de savoir si elle a le patrimoine le plus important de France. L'idée, c'est qu'on soit capable de voir la Corse aussi pour son patrimoine, qui est d'une richesse folle. Parce que la Corse est une île, parce que la Corse est une terre de plaine, de collines, de montagnes. Donc on est capable de recueillir tous les patrimoines. Si on devait résumer ce patrimoine très simplement, on est capable aujourd'hui de produire en France, en Corse, tout ce qui se produit sur le continent français, excepté la coquille Saint-Jacques. Donc ça fait quand même un terrain de jeu fabuleux. C'est pour ça que beaucoup de chefs aujourd'hui viennent nous voir et commencent à nous regarder aussi par ce prisme-là. Et c'est un peu le message que porte le livre.
Et ça, c'est lié à la configuration effectivement géologique de la Corse, une montagne dans la mer. Vous développez d'ailleurs une vision topographique de la cuisine corse avec une expression que j'aime bien.
Alors, on peut symboliser la cuisine corse en disant que si effectivement on a des produits du fond de la mer, du bord de mer, de plaine, de collines et de montagnes, on peut dire qu'on a des produits de fond et des produits de mont. C'est-à-dire que dans un même repas, on est capable d'avoir, si on prend par exemple l'oursin, on peut faire trois oursins avec une petite brouillade, une tranche de jambon, on aura à ce moment-là des produits de fond et des produits de mont symbolisés par le jambon de montagne.
Et c'est vrai que c'est pour le coup tout à fait extrême comme produit, entre les produits de la mer, les produits de la montagne. On a le droit de dire que la Corse, la cuisine corse est quand même majoritairement très tournée vers la terre.
On a le droit de le dire et on peut penser l'inverse. On peut penser l'inverse, parce qu'aujourd'hui, chaque petit village de bord de mer a son pêcheur, chaque pêcheur a ses recettes. Alors il est vrai que pendant un temps, les Corses étaient essentiellement tournés vers la mer parce que l'envahisseur faisait peur, donc on se repliait.
Ils tournaient le dos à la mer. Hein.
Depuis 200 ans, on est un petit peu moins embêtés. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on se retourne à nouveau vers la mer, et il y a une vraie réappropriation de ce patrimoine marin à mettre en avant. D'ailleurs, on y travaille, ça sera peut-être l'objet des recherches à venir.
Et vous en faites état, effectivement, de ce patrimoine gastronomique corse dans votre livre Du pain, du vin, des oursins, à travers à la fois des recettes marines. Il y a les anchois à la bastiaise, les sèches à l'ajaxienne, la langouste évidemment, à Centuri notamment dans le Cap Corse, la soupe de poisson, il y a même des variantes un peu corse de la bouillabaisse. Et puis il y a effectivement, vous en faites l'écho, ces traditions pastorales, laitières, ces traditions culinaires de montagne. Et en parlant de traditions culinaires de montagne, produit emblématique corse, s'il en est, la charcuterie.
Alors Félix, avec Christine, vous nous avez préparé une petite planche là, très alléchante. Qu'est-ce qu'on a sur cette planche?
Tu as du saucisson, de la coppe et du jambon. Prisoute, c'est vrai, j'ai toujours tendance à dire jambon, mais c'est prisoute. Après, vous avez de la coppe.
Donc la coppa où vraiment le gras est à l'intérieur. Hein.
Voilà. Si on ne fait pas manger les cochons toute l'année, et surtout juillet, août, septembre et octobre, le persillement de la viande n'est pas la même. Ça, ce morceau-là ne serait plus de maigre.
Ça aurait été déséquilibré au niveau du gras. C'est fondant. Et avec ce gras, c'est onctueux, c'est le mot, je trouve. Ouais. Il se nourrisse à la châtaigne et il ressort un goût de noisette.
Voilà, c'est ça. C'est le sucré. Mm.
Les pérégrinations charcutières de Lénora Krief du côté de...
Du côté de Coutoli.
Voilà, oui. Avec l'accent.
J'essaye. Oui, j'ai eu la chance de goûter cette charcuterie incomparable. Hein. Saucisson, lunzu, coppa, prisoute, figatello. Félix produit toutes ses salaisons passées en AOP en 2012 en respectant une conservation et un affinage bien précis.
Donc c'est Félix Thor. Il est producteur de porc noustral, hein, sachant que cette charcuterie est protégée par une appellation d'origine contrôlée qui est devenue avec l'Europe appellation d'origine protégée. Un produit identitaire tout à fait exceptionnel. Vous êtes allé lui rendre visite dans sa ferme?
Et oui, avec Nicolas Stromboni, nous retrouvons sur son exploitation Félix. Donc c'est environ à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio. L'exploitation se trouve dans la montagne, au milieu d'une forêt de chênes et de châtaigniers. Mm-hmm. Les charcutiers, comme les appelle Félix Thor, donc les porcs destinés à être abattus, sont élevés sur ce parcours de 10 hectares. Ils se promènent sur cette végétation de moyenne et haute montagne. Et au moment où nous y étions, eh bien c'était l'heure de la soupe. Toutes les châtaignes ne sont pas encore tombées. Et Félix Thor vient compléter l'alimentation de ses charcutiers avec de la farine d'orge. Oui, il y en a combien là devant nous là?
Oh les copains! Là, il y a 22 truies et il y a 70 petits. Mais vous avez du petit il y a 2 mois et l'autre il a 1 mois et demi.
On va essayer de faire un peu le portrait de ce cochon là qui s'avance vers nous. Donc il a les oreilles quand même bien tombantes.
Oui, qui recouvre les yeux. Et qui normalement doivent toucher presque le museau. Oui, mais la morphologie du cochon et la couleur, c'est vraiment le noir. Il est trapu, le cochon noir est trapu. Il n'est pas haut en pattes. Il doit faire 1,20 m de long. Voilà, ça c'est une truie qui a 1 an. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 80 kg en poids carcasse. De 80 à 93, j'avais une entreprise de plomberie, on était 3. Et en 93, un matin, je me suis levé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit on arrête tout. Et j'ai fait une exploitation porcine. Ça a été dur, mais on a réussi. Le porc me plaisait. Ben, j'aurais pu faire autre chose, hein, mais c'était le cochon qui me plaisait. Et je savais très bien qu'il fallait que je fasse une race, la race corse, et partir dans de l'AOP. Dans de l'AOC, au départ, c'était charcutier en AOC, et maintenant, on est en AOP, voilà. Je savais très bien qu'il fallait qu'on se démarque des autres charcutiers. Il faudrait arriver à faire comprendre aux gens que de la charcuterie, c'est comme d'autres produits, il ne pourrait pas y en avoir toute l'année. Parce que la vraie charcuterie corse, elle est faite l'hiver. L'été, on ne fait pas de picatille, on ne fait pas de saucisson, on ne fait pas de coppe, on ne fait pas de londe, on ne fait pas de prisoute. Voilà. On va voir des charcutiers un peu.
Allez. Qu'est-ce que vous transportez sur l'épaule là?
Farine d'orge. Nous, on travaille qu'avec la farine d'orge.
C'est ce que vous allez donner à manger à vos cochons? Oui.
Tous les charcutiers mange de la farine d'orge 300 jours par an. Le cochon à 3 mois et demi, pour moi, c'est du charcutier.
Donc vous le considérez comme un charcutier?
Oui, il devient charcutier.
Oh,
d'être affamés, vos cochons.
Ah, pas du tout. Hein. Là, ils viennent, le cochon corse, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire manger tous les jours. Toujours la même dose, la même nourriture.
Mais en tout cas, ils sont bien élevés. Hein. Deux rangées, ça dépasse pas. Hein.
Eh oui, c'est pour ça. Ils sont habitués. Hein. C'est pour ça, comme je vous dis, qu'à 3 mois et demi, 4 mois, ils commencent à manger ça. Oui, aujourd'hui, ils sont bien éduqués. Et là, c'est l'endroit, comme je vous dis, ils arrivent manger les charcutiers. Et après, ils repartent. Ils montent la châtaigne. Parce que là, tout le long de...
Mais là, derrière, effectivement, il y a la montagne. Donc, voilà. Ils sont dans le maquis, ils après, ils se baladent. Maquis.
Voilà. Vous voyez, les châtaigniers, regardez. Là, il y en a des châtaigniers. Parce que le cochon mange jusqu'à 7 kilos par jour de châtaigne.
Oui, donc, quand on dit, il se gorge de châtaigne.
Voilà. Le cochon corse, il faut le surveiller. Il faut lui donner de la bonne nourriture.
C'est vous, Félix Tard, qui tue les cochons, hein?
Non, je ne tue pas les cochons. Je charcute. Et c'est l'abattoir qui tue les cochons. Je ne peux pas le tuer. Je les élève, je les bûchonne, et après, je charge les cochons tous les vendredis, je les ramène à l'abattoir. Je ne peux pas tuer un cochon.
Heureux comme un cochon en Corse, et surtout quand on est un cochon d'Oustral, un cochon de race locale, c'est le porc cunero, hein, c'est ça?
Le porc cunero, ouais.
Et ouais. Quand on est élevé par Félix Thor, dont on retrouve le portrait évidemment, Nicolas Stromboni, dans votre livre Du pain, du vin, des oursins, figure incroyable, Félix Thor.
Ouais, Félix Thor, c'est un personnage. Il a des yeux assez magnétiques. Il est captivant. Et puis c'est quelqu'un qui est sincère, qui est drôle quand il faut, extrêmement rigoureux. Et voilà, le résultat est dans l'assiette qui est à côté de nous. Ça embaume le studio.
Vous avez été sous le charme, Lenora aussi.
Tout à fait.
Vous nous avez rapporté cette incroyable charcuterie qui est dans ces assiettes, effectivement. Estherelle, c'est quelque chose quand même. Hein. On s'en est empiffré pendant le reportage. C'est quoi en fait? C'est quelle partie? On est dans le prisoute?
Alors on est dans le prisoute. On est dans la noix du prisoute, donc c'est-à-dire la partie la plus moelleuse et la plus charnue, et donc on est sur un jambon qui a 36 mois. Donc on voit que c'est un jambon qui commence à avoir des petites taches blanches. Alors certains disent que c'est le sel qui ressort, les plus savants disent que c'est la protéine qui coagule. Alors très sincèrement, j'en sais rien. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on a ces petites taches là, c'est que c'est le bon moment.
Il a un gras,
il
a couleur ivoire.
Il a un marbrage aussi, hein. Il est tout, il est un petit gris en fait. On voit bien le marbrage, et quand on l'étire un peu, on voit qu'il est tout persillé de gras à l'intérieur. Ça fonce.
C'est ce que nous disait Félix Thor, d'où le fait de jamais avoir de rupture dans l'alimentation, de manière à ce que le gras pénètre la chair comme une entrecôte persillée. C'est un petit peu le même principe, et le gras sera porteur de saveur. Du coup, on aura cette longueur en bouche fabuleuse, mais je crois qu'on va déguster la charcuterie.
Et chair très foncée, couleur lit de vin.
Alors lit de vin parce que maturité, c'est à ça qu'on voit qu'un jambon est mature, hein, quand il commence à avoir ces notes de grenat un petit peu foncées, ce gras très rose. C'est un gras rose, mais c'est à la fois un gras qui est très très ferme, très très laqué, un petit peu comme les lards de colonnade.
Nicolas Stromboni, l'image du terroir corse a quand même été un peu ternie ces dernières décennies par des productions de charcuterie industrielle, etc. Ce jambon-là est exceptionnel. Il faut bien reconnaître quand même que, compte tenu des efforts humains pour le fabriquer, il a un prix assez élitiste. Et il est surtout très très rare, très compliqué. C'est d'ailleurs souvent ce que nous disent, ce que nous ont envoyé comme réaction les auditeurs avant cette émission. Le problème avec le terroir corse, c'est que c'est souvent compliqué d'accéder aux très bons produits parce que ceux-ci sont rares. Ils sont produits dans des quantités, des volumes parfois infimes.
Alors que le terroir ait été terni, ça c'est vous qui le dites.
C'est un peu le cas.
J'en suis pas sûr. En tout cas,
la charcuterie industrielle avec des carcasses.
Je crois pas que les choses soient antinomiques. Je crois que les choses peuvent cohabiter tout à fait. Mm-hmm. D'abord, la charcuterie industrielle a un public, la charcuterie fermière a un autre public. On ne produit pas la même quantité. Et aujourd'hui, vous savez, en fonction des goûts, des modes alimentaires des uns et des autres, on pourra ou pas apprécier ce type de charcuterie. Je crois qu'il faut stigmatiser personne.
Et non, je rappelle quand même que
si aujourd'hui on produisait en Corse les porcs qu'on consomme, ça serait une catastrophe écologique, puisqu'il nous faudrait s'occuper un sixième du territoire, ça serait un désastre.
D'accord, donc il faut, comme vous le dites alors, que ce mode d'élevage reste minoritaire.
Moi, ça me va très bien. En fait, ce qu'il faut surtout, je pense qu'il faut donner aux gens la capacité d'étalonner. Il faut leur dire, voilà, il existe des jambons industriels, il existe des jambons fermiers, à vous de vous reconnaître. Moi, je me borne à faire cette proposition-là. Je suis pas là pour juger les gens.
En tout cas, sur le plateau dont on va déguster, on a quand même choisi son camp. C'est celui de Félix Thor, dont on va découvrir d'ailleurs la cave d'affinage.
Ça, c'est une cave d'affinage. Si vous voulez, c'est qu'une fois que la pièce est sèche, le jambon, la coupe, le long est sec. Vous le touchez, il est sec. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut le vendre. Parce qu'il faut lui donner un temps d'affinage. Parce qu'il faut que la viande soit mature.
Ils sont tous dans cette pièce. Hein. Copa, Lonzo, saucisson, prisoute. Tout est mélangé.
Tout est mélangé.
Ils restent tous autant de temps dans cette pièce?
Non, parce qu'une noix va rester 8 à 10 mois, un saucisson va rester 5 mois, une coppe va rester 1 an, et le lance va rester 8 mois. Ça, c'est les jambons qu'on a fait l'année dernière. Ça, c'est des jambons qui ont 24 mois. Et ça, c'est des 36 mois.
La Corse au menu dont on va déguster grâce à notre guide Nicolas Stromboni. On se retrouve juste après Mathieu Bogart.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large, oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur, enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? 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 Sauvez-la. Sauver de la prison. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas? Sauver de la. Sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion? Que j'y aille, aller tenter ma chance, reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Cucina Corsa, la cuisine corse au menu dont on va déguster. Vous êtes bien sur France Inter et nous sommes en compagnie en ce dimanche de Nicolas Stromboni, auteur du pain, du vin, des oursins. Un recueil sur la cuisine corse comme il en existe peu. Et votre livre d'ailleurs fait un joli effet dans les librairies de l'île de beauté mais également du continent. Vous avez un restaurant, Cave à Vin, qui s'appelle... Le chemin du vignoble?
Le chemin des vignobles. Alors
le chemin des vignobles.
On se définit plus comme un bar à vin qu'un restaurant, puisque dans un bar à vin, par nature, on y consomme du vin. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment notre métier de base. Et de base, c'est de faire consommer du vin, si possible en accord, puisque on a cette chance de pouvoir proposer une cuisine en accord avec nos jolis vins, mais pas que.
Et vos vins sont en accord avec de très belles choses, comme un plat signature qui a beaucoup de succès dans votre établissement et dont vous allez nous livrer la recette. C'est le veau rôti. Quand on a parlé veau, Estherelle, vous avez été un peu étonnée.
Oui, j'ai froncé les sourcils parce que je pensais plutôt au cabri ou à l'agneau et je vois pas l'île de beauté si grande pour accueillir tous ces bœufs.
Et pourtant, le veau est vraiment un animal emblématique dans la cuisine corse, Nicolas Stromboni.
Ce sont des veaux qui vivent sous la mer, se cachent. Sous la mer,
avec un E cette fois-ci.
Voilà. Non, ce sont des. Effectivement, votre remarque est très juste. On a un élevage qui n'est pas un élevage laitier. On élève des vaches pour faire de la viande, donc pour faire des veaux. Et le veau, c'est un animal. C'est un veau qui est broutard, donc c'est un veau qui est rouge. C'est pas un veau qui est blanc comme on peut rencontrer dans les boucheries sur en France continentale. Donc c'est un veau qu'on va travailler comme du bœuf. Donc cette recette. qui est dans le livre, donc le veau rôti. On va parler de la recette tout de suite. C'est une recette qui peut se réaliser avec le bœuf. J'en profite pour dire que certains produits du livre sont tout à fait substituables. On parlait du brooch tout à l'heure. Le brooch peut se remplacer par de la ricotta.
On va le voir justement. On va le voir justement avec Estherelle. Et effectivement, comme ce veau est assez broutard, c'est-à-dire que c'est presque une viande rouge, qui est d'ailleurs très parfumée par l'alimentation du veau quand il est petit. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un veau nourri au lait, un veau anémié. C'est vraiment un veau qui est rouge. Donc on peut le remplacer par une pièce de bœuf.
Donc on va essayer de donner rapidement les grands principes de la recette. D'abord, on sale le veau avec un gros sel humide. Alors souvent les gens disent il faut pas saler la viande avant parce que ça pompe les sucs, effectivement ça pompe les sucs, sauf si on humidifie le sel. Et là on humidifie le sel avec du vinaigre.
Très bien.
De manière à ce que...
Précisons juste qu'on prend une grosse pièce de veau.
Alors on prend une pièce d'environ au moins 600 grammes.
Ah oui.
Entre 6 et 800 grammes. Hein, donc ça fait pour entre 4 et 5 personnes.
Donc une noix de veau. Hein.
Une noix de veau, voilà. Un morceau de noix de veau, puisqu'une noix de veau pèse 3-4 kilos, donc un beau morceau de noix de veau.
Très bien.
Ou de sous-noix éventuellement, ça fait l'effet. Donc on y met du vinaigre sur le sel, de manière à ce que le sel ne pompe plus l'eau de cuisson. Alors action du sel et du vinaigre, c'est que quand on va chauffer le sel et le vinaigre, ça va caraméliser, ça va faire une croûte et ça va accentuer ce qu'on appelle le process de la réaction de Maillard. Donc ça va croûter la viande.
Donc vous faites votre mélange à part, en fait, vous prenez du gros sel que vous arroser de vinaigre.
Alors le process c'est 5 étapes. C'est on prend le veau, on va enduire d'huile d'olive très délicatement.
D'accord.
Cette huile d'olive permet d'accrocher le sel. Mm-hmm. On va mouiller le sel avec du vinaigre. On y met de l'arbabaronne. L'arbabaronne c'est du thym de montagne sauvage qu'on a dans le plateau qui peut être substitué par du thym.
Plateau du Cochon, j'en ai ici d'ailleurs.
Plateau du Cochon, exactement. C'est un thym merveilleux.
Sentez ça.
Alain Dutournier avait dit de ce thym que c'est un thym qui n'est pas vulgaire, c'est un thym qui est extrêmement élégant, qui n'est pas prégnant, qui a très peu d'huiles essentielles.
Référence à Thymus vulgaris.
Vulgus thymus, qui est le mot latin du l'appellation latine du thym. Donc c'est un thym qui n'est pas vulgaire, c'est un thym qui n'est pas prégnant, qui est extrêmement floral, très peu citronné, très élégant. On termine ce veau par un petit peu de poivre et on va le marquer sur une poêle très très chaude et on va le terminer au four.
Oh,
on va lui donner un temps de repos, c'est-à-dire qu'on va sortir la viande, on va la laisser reposer sur une grille pour pas que le veau boue au contact d'une assiette et on va terminer sa cuisson au four très très rapidement à 200 degrés juste pour le ressaisir et puis on sert de suite avec cette belle purée. Donc vous voyez qu'on donne la recette, mais je sais pas si on a le temps de la donner.
Mais bien sûr, on va la donner, mais cette pièce de veau, la photo est absolument incroyable parce que vous avez effectivement cet effet croûté qui doit être très très aromatique et le cœur de la viande est encore bien rouge. C'est une cuisson superbe.
C'est encore un accord de texture, c'est-à-dire qu'il faut que effectivement la croûte soit légèrement croustillante avec cette note caramélisée acidulée et puis l'intérieur, c'est un intérieur qui est fondant. Donc on a toujours les trois textures, hein, la partie croustillante, la partie ferme en périphérie et la partie moelleuse au cœur.
Et quelques pages plus loin, vous proposez la recette de la purée de votre grand-mère. Alors a priori, on pourrait se dire une purée de pommes de terre, qu'est-ce que ça a de Corse ? C'est le tour de main en fait, c'est une espèce de petite subtilité. Alors, qui est très importante.
Ma grand-mère était une personne qui cuisinait avec très très peu de matière grasse. Elle m'a appris ceci, elle m'a dit qu'une pomme de terre ça se cuit avec très peu d'eau. Tu mets pour parfumer le bouillon, du laurier, éventuellement un cul de citron. Donc on fait un petit bouillon pour cuire cette pomme de terre avec très peu d'eau. Et on utilise l'eau de cuisson de la pomme de terre pour remonter la purée tout doucement, comme une mayonnaise. Et à la fin, on lit cette purée avec un tout petit peu de matière grasse. Ce qui fait qu'on a une purée qui est extrêmement aérienne, très fine. Et avec 2-3% de matière grasse, il ne faut pas oublier le poivre blanc qui est un ingrédient nécessaire. Et on aura également incorporé l'ail de cuisson dans la purée.
Vous connaissiez ?
Du tout. C'est vraiment une émulsion. Ça a l'air
avec la propre eau de cuisson.
C'est une vraie émulsion. Et quand on la travaille tous les soirs au bar à vin, on est obligé toutes les 10 minutes, un quart d'heure, de remettre un petit peu d'eau de cuisson, de remettre un coup de fouet pour la réémulsionner, qu'elle soit crémeuse et onctueuse.
Et il y a vraiment cet effet onctueux.
Il y a un vrai
besoin de mettre une demi-brique de beurre.
Il y a un vrai effet. Il y a un vrai effet aérien. Et très sincèrement, c'est une purée qui est à l'inverse de la purée de Robuchon que j'adore par ailleurs, mais c'est une purée qui est extrêmement légère.
Parce que là, vous évoquez la purée de Robuchon, effectivement, purée de rate, de pommes de terre rate, et il y a quand même plus de beurre que de pommes de terre. Hein. On est à 60% de beurre pour 40% de pommes de terre.
Normalement 50-50.
Si vous voulez le secret de cette purée, c'est que simplement dans l'eau de cuisson, il y a de l'amidon. D'habitude, on le jette, et c'est cet amidon qui va permettre de faire la liaison.
Venons-en à un chapitre essentiel de la gastronomie corse, le cajou casano, le fromage et le fromage fermier de préférence.
Mais là, c'est la salle d'emballage. C'est là où on prépare le fromage qui va partir.
Alors là, on coupe un basilicaccia.
Voilà, qui commence à être affiné là. C'est le fromage de fin de saison. Il a été fabriqué vers le 15 juin. Très difficile de l'analyser parce qu'il y a tellement une petite nuance.
C'est très parfumé.
Au départ, c'est pas de sel, mais c'est un fromage qui se consomme frais, le basilicage. C'est-à-dire à partir d'un mois d'affinage. Donc là, quand il commence à rentrer dans plusieurs mois... Et
la pâte n'est plus molle.
Ça ressemble un peu à une petite tombe, la structure. Hein. Mais avec le goût quand même du basilicage, parce que le basilicage même affiné a un goût très particulier. Le beurre fermier qu'on retrouve dans les exploitations un peu très très jaune, très... De la crème aussi, la crème... On ressent quand même le fruit à la coque.
Toute leur alimentation, en fait.
Rosette, ouais. Il y a beaucoup de l'alimentation qu'on retrouve dans les saveurs du fromage.
Lénora Krief, aux côtés d'un des artisans emblématiques de la fabrication de fromage au sud de la Corse, c'est Jean-André Mameli, c'est ça, hein?
Oui, Jean-André Mameli, là on se trouve dans la commune de Sarola-Carcopino.
On n'est pas très loin d'Ajaccio toujours, Nicolas Stromboni.
Non, juste, c'est la grande région d'Ajaccio, la vallée de la Gravone, sa périphérie de la vallée de la Gravone.
Absolument.
Jean-André Mameli, un berger et éleveur bio avec 120 brebis à la traite. Il produit différents fromages, comme la tome sartonnaise que vous avez ramenée en plateau, Nicolas Stromboni.
Elle circule autour du plateau, hein, je vous rassure.
Le fameux broccio.
Dont on va parler dans un instant.
Et également le Basilicaccia, donc le seul fromage à croûte fleurie de Corse. Fabriqué dans un triangle qui part du col de San Bastiano jusqu'à Bocconano et Sainte-Marie-Siché vers le sud. C'est un fromage qui espère avoir l'AOP. Alors au milieu de cette végétation riche et variée où l'on trouve des chênes, des arbousiers, des arbrisseaux, les brebis vaquent à leur activité. Mais avant, on passe à la traite.
Voilà, se mettre en place, chacune dans un casier.
Qu'est-ce qu'elle mange?
Du maïs ou du ruminant bio.
Bio, hein, parce que vous êtes éleveur bio.
Ouais.
Quand elles sont en liberté, elles mangent qu'elles trouvent, de l'herbe.
Ah oui, là, c'est juste un complément pour la traite.
Vous produisez quel type de fromage?
Moi, je produis de la tome et un fromage typique de la région d'Ajaccio qui s'appelle le basilicage. C'est un fromage qui est commun aux trois vallées versantes d'Ajaccio.
Est-ce qu'il est labellisé ou pas ce fromage? Pas encore, je crois.
Il
hein.
n'y a pas encore de certification sur les fromages en Corse. Il n'y a que le brooch qui est certifié.
Brooch, ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'herbe du maquis qu'elle mange donne un goût particulier au lait?
Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de différences, surtout en fromage fermier. Déjà chez moi, le fromage qu'on fabrique d'une semaine à l'autre n'a pas le même goût. Il y a toujours des petites nuances. Et s'il y a des effluves marines, c'est encore différent. C'est vraiment le fromage fermier par excellence, le fromage corse.
Et selon les saisons, est-ce qu'ils ont un goût différent, ces fromages?
Ah oui. Disons qu'il y a les fromages de début de saison, qui sont très riches et goûteux, je dirais. Ensuite, il y a les fromages de pleine saison. Ils sont un peu plus neutres parce qu'il y a beaucoup d'offres fourragères. Et après, les fromages de fin de saison, où là, c'est vraiment un concentré de saveurs. Parce qu'il y a toutes les petites fleurs dans les champs. Vous savez, le fromage le plus vendu en France, le fromage corse le plus vendu en France, c'est le brin d'amour. Alors qu'ici, il n'existe même pas. On ne sait même pas ce que c'est.
Pourtant, effectivement, hein, il fait partie des 5 fromages dits Corse.
Eh bien, ici, il n'existe même pas. Le seul fromage à croûte fleurie de Corse, c'est le basilicache. C'est un fromage qui est fabriqué avec du lait de brebis ou de chèvre corse.
Vous le faites à partir de brebis corse, hein, celles qui sont là.
On peut le faire avec les... On a fait un cahier des charges en sorte que le fromage soit fabriqué d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire avec une espèce ou l'autre. Ou les deux. Les deux mélangés. Il y a beaucoup de bergers qui font au cajou mixte. C'est-à-dire chèvre et brebis mélangés.
Elles vivent en liberté, elles se baladent et elles mangent de tout. Dans le maquis, des herbes, même des châtaignes.
À l'époque, oui.
Enfin, bientôt, elles mangeront des châtaignes.
Là, par exemple, il commençait à avoir la tombée de glands. Donc, ils vont consommer des glands. Des pousses d'arbousiers, de bruyères. Et c'est tout ce mélange qui fait la particularité organoleptique de notre lait. Hein. Quand les brebis redescendent des pâturages de coteaux, elles ont tendance à manger l'ail des ours qui pousse sur les bords des rivières.
L'ail des ours?
L'ail des ours, oui, c'est ça ressemble à l'ail, quoi, c'est des petits oignons. Et le soir, quand on vide le lait, on sent l'odeur de l'ail.
Et pourquoi vous avez choisi d'élever que des brebis et pas des chèvres?
Bah, parce que j'avais des terrains qui se prêtaient aux brebis, quoi. Bon, puis les chèvres, c'est quand on a 20 ans, on peut les faire. Après, il faut de bonnes jambes aussi, hein, pour faire les chèvres.
Hein. Grimpette dans les montagnes corses pour élever des chèvres afin de faire un fromage qui a vraiment tout bon. Sincèrement, lait cru de brebis, agriculture biologique, fabrication fermière, le fromage de Jean-André Mamelli coche vraiment toutes les bonnes cases d'un fromage parfait qu'elle reflète son terroir, Nicolas Stromboni.
C'est un vrai ambassadeur, c'est un militant, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, qu'il démontre tous les jours. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de production pour servir tout le monde, mais quand on a la chance de goûter ce fromage-là, c'est juste merveilleux, c'est équilibré. Effectivement, il y a ce petit duvet qui emmène une légère amertume et qui porte toutes les saveurs de la Corse, et puis une onctuosité. Alors c'est un fromage qu'on consomme assez jeune, hein, c'est un fromage qui ne vieillira pas, qui a une particularité. Au mois de février, il tombe ce qu'on appelle en charbé, c'est-à-dire que le lait est tellement gorgé d'humidité que le fromage s'affaisse un petit peu comme pourrait la forme d'une époisse.
Là, vous évoquez un type de fromage corse, plutôt au sud, hein, même carrément au sud, puisque c'est originaire du village de Bastelica, c'est le Bastelicaccia.
Le Bastelicaccia, voilà. Donc ce matin, nous avons la chance de goûter dans le studio un des cinq fromages corse. On a cinq fromages rapidement. Donc au sud, Sartène, c'est un fromage qui est fumé au bois de lentisque, parce que c'est un antiseptique. Donc c'est le seul fromage fumé légalement en France qui est en passe d'avoir l'AOP. Il y a aujourd'hui plus que trois producteurs qui en font, mais c'est une vraie merveille. Il
faut également c'est une tome, hein, du côté de Sartène.
Donc, Sartène sont des tomes.
Voilà.
Bastelicaccia sont des petits fromages de 400 grammes, croûte fleurie. Quand on monte en centre Corse, ce sont des petits fromages également avec une croûte qui est lavée avec une saumure au vinaigre, sel. Et dans la montagne, Niolo et Calenzane, à côté de Calvi, deux autres fromages qui sont des fromages plutôt de chèvre à croûte. Il n'y a pas de croûte, c'est des croûtes qui sont lavées, lavées tous les jours au sel. Et ce sont des fromages qui demandent à être affinés, qui sont un peu plus violents que les trois précédents.
Et le Calenzane, oh là là, quel fromage. J'ai rencontré l'un des derniers producteurs de Calenzane où c'était vraiment un petit fromage de chèvre avec des notes très piquantes.
Alors, particularité de Calenzane, c'est que Calenzane, c'est le seul village de Corse où le métier d'affineur était encore développé. On produisait du fromage dans le Niolo et c'est les gens de Calenzane, généralement les femmes, qui l'affinaient dans des grandes malles de bois sous terre ou dans des boyaux souterrains.
Petite légende urbaine, juste une question Nicolas Stromboni, légende urbaine ou plutôt légende champêtre concernant le terroir corse, est-ce qu'il existe vraiment ce cajoumerzu, c'est-à-dire ce fromage pourri? C'est vrai que depuis Astérix en Corse, on en entend parler de ce fameux fromage corse garni, ouais, qui marche tout seul, garni d'asticots. Ça existe vraiment ou pas?
Alors, moi j'en ai mangé quand j'étais gamin, mais mes grands-parents étaient bergers, donc j'en ai mangé assez souvent. Ça ne nous rebutait pas d'ailleurs. Hein, pour
les petits asticots qui gigotaient, voilà. Comme ça, c'était pas...
Il y avait une technique, c'est qu'on mettait un petit peu d'eau de vie, et puis les asticots ne bougeaient plus, on les voyait plus, on les mêlait à la pâte, donc on n'y faisait pas cas. Alors très sincèrement, ça fait très longtemps que j'en ai pas goûté, peut-être qu'il en existe encore, mais pourquoi pas, quoi. En plus, c'est pas mauvais.
C'est comme le jus de citron sur les huîtres, en fait.
Exactement. Je sais, en fait, que ça existe. J'en ai déjà goûté, mais c'est dans certaines maisons, c'est assez rare. C'est une offrande vraiment privilégiée, un cadeau de bienvenue qui peut vous mettre dans des états un petit peu compliqués.
Voilà. Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Estherelle, et si on se tournait plutôt vers le brooch, ça me paraît plus raisonnable.
Oui,
que
au
le
moins,
fromage
y a pas
pourri, le cajoumerzu qui peut faire exploser un navire en Méditerranée. C'est le brooch qui vous a inspiré parce que vous allez nous faire découvrir les secrets de sa famille fromagère.
Eh oui, on pense tout de suite au brooch de brebis de chèvre, mais il y a aussi tous les fromages qu'on appelle le sérac, le greuil, la recuocia, la recuite.
Ah.
Ils ont tous un point commun, vous voyez lequel?
Ouais, peut-être, vous allez nous l'expliquer.
Bon allez, je vous aide, c'est juste fait à base de petit lait.
Ah.
Alors, si vous n'avez jamais fabriqué de fromage, c'est peut-être une notion qui vous est un peu lointaine.
Petit lait, c'est vrai que c'est une expression qui est très populaire et en même temps, on ne sait pas vraiment ce que c'est.
Alors, défaut d'en boire ce matin, on va en manger. Donc, je suis allée voir mon fromagiste préféré, il m'a donné un petit cours de fabrication fromagère que je vous résume. Pour faire un fromage, on commence par faire cailler du lait.
Jusque-là, ça
va. On suit. Ensuite, on les goûte. Tout va bien. Et après ça, il reste donc plein de liquide d'égouttage. Et c'est ça qu'on nomme petit lait ou lactosérum. Ce que vous avez au fond de votre faisselle, là, le liquide blanc quand vous l'égouttez.
C'est ça le lactosérum.
C'est juste ça. En gros, pour 10 litres de lait, on obtient 1 kg de fromage et 9 litres de lactosérum, l'autre nom du petit lait. Dedans, il y a des sels minéraux, du lactose, un petit peu de matière grasse et des protéines. Vous vous doutez bien, François-Régis, qu'on n'allait pas jeter tout ça.
Ben voilà, l'économie paysanne qui recyclait absolument tout, y compris ce petit lait, ce lactosérum. Alors on en fait quoi de ce petit lait?
Eh bien, on en nourrit les cochons. Ça, c'est le cas en Franche-Comté, pour faire après les morteaux.
En Franche-Comté aussi ailleurs.
Et en Corse aussi,
Nicolas.
On peut faire la vaisselle avec.
ça c'était la tradition, après la fabrication du brut, sur ce qui restait, ça mousse. J'ai déjà testé pour vous, on trouve même des liquides vaisselle qui contiennent du lactosérum. On peut faire sa vaisselle avec.
Génial.
Mais surtout, on peut en faire un autre produit laitier, avec pas mal d'huile de coude comme ingrédient secret. Le principe, c'est qu'il faut le faire chauffer aux environs de 85 degrés. Et là se forme une sorte de mousse nuageuse. Bon, ça c'est la version un peu poétique. En version scientifique, c'est simplement une coagulation des protéines. Hein, voilà. Ce procédé, ça s'appelle la recuite.
Oui.
Comme son nom l'indique, ce n'est pas une deuxième soirée après une gueule de bois, mais une manière de cuire une deuxième fois ce petit lait. Comme ça, on récupère tout ce qui est consommable. Une fois récupéré à l'écumoire, on fait égoutter les flocons légers qu'on a eus et on obtient, selon la région, du sérac, du brocio, etc.
Mais attendez, c'est si simple à faire que ça, Estarel ?
Bon, je vous ai un peu simplifié la chose parce qu'il y a à peu près autant de recettes de recuite que de villages, sachant qu'on peut en faire avec tous les laits animaux et même en les mélangeant. En plus, en général, on ajoute un quart de lait à ce mélange de petits laits pour obtenir un côté plus crémeux, plus onctueux. Parfois, on met du sel aussi, c'est le cas pour le brocio au départ, afin d'obtenir un caillé un peu plus ferme. L'important là-dedans, c'est le geste. Il faut mélanger en grattant le fond pendant les 15 à 20 minutes que dure la cuisson. D'ailleurs, en occitan, brousser, ça veut dire mélanger. Vous voyez bien le lien avec le brocio.
Absolument.
Alors attention quand même, parce qu'on entend aussi le mot brousse. Moi, je pense à la brousse de chèvre du Rove, hein, de mes fromages chouchous.
Parce que vous êtes du côté de Marseille. Hein.
Et oui, on ne peut pas se cacher. Donc, la brousse de chèvre du Rove, qui devrait bientôt aussi obtenir son AOP, elle est faite à base de lait de chèvre et pas de petit lait.
En dehors du sud de la France, on les trouve où, ces fromages de recuite ?
Partout où il y a une grosse production fromagère, évidemment. Trouvez le gros fromage, vous trouverez derrière la recuite. Là où on fait de la brebis et du chèvre, et surtout là où il y a des pâtes pressées au lait de vache.
D'accord.
Alors en Savoie et en Haute-Savoie, là où il y a le Comté, le Beaufort, l'Abondance, vous allez avoir le sérac, qui est assez ferme, carré, qu'on mange coupé en tranches avec des pommes de terre. Si vous allez vous promener aussi en Suisse, vous allez le trouver de l'autre côté. Si on va du côté de Roquefort, on va trouver de la recuite de brebis, qu'on va utiliser dans une sorte de flan, la flaune, qui est d'ailleurs un peu la cousine du chiadon corse.
Hein. Dont on va parler dans un instant avec Nicolas.
Au Pays Basque, l'osso irati, ça donne la recuocha. Bon, vous pardonnerez mon accent quand même. Dans les Vosges, il y a la brocotte, mais on va trouver la maquille en Belgique, la ourdan en Roumanie, ça traverse les frontières. Toutes de formes, de textures variées, mais elles sont toutes issues de la même technique de récup. Rien ne se perd et tout se transforme.
Je crois que vous avez oublié le plus célèbre de tous quand même, Estarel.
Bon, je vois que vous n'avez pas séché vos cours d'italien, hein, François-Régis, hein, parce que la ricotta, ça veut littéralement dire recuite. Et en Italie, il y en a plus d'une centaine. C'est vraiment le paradis, puisqu'il y en a de bufflone, à base de petit lait de mozzarella, de chèvre, de brebis et de vache, qui viennent du parmesan. Attention quand même, la ricotta industrielle contient régulièrement plus de lait que de petit lait. C'est ce que Max expliquait à Alessandra Pierini, notre épicière italienne qu'on a déjà reçue ici.
Et qu'on embrasse évidemment.
Si une ricotta affiche plus de 25% de matière grasse sur l'étiquette, méfiez-vous, c'est qu'on lui a ajouté beaucoup de lait, voire de la crème.
J'ai envie qu'on passe à table, une petite recette quand même avec ces fromages frais, notamment de la ricotta en particulier.
Et oui, c'est un hommage à la tradition du sud de l'Italie d'utiliser la ricotta dans les desserts. Alors moi, je vous ai préparé des pancakes. On pourrait dire des matefins aussi, comme on dit en Provence.
Les faites passer, s'il vous plaît.
Oui, alors j'ai pas pris la confiture avec. Donc ces petites crêpes moelleuses, c'est un secret pour le dimanche matin.
On a le droit
c'est
de les faire goûter à Nicolas ou pas ?
Avec plaisir, mais j'ai peur des critiques.
Non,
alors, tout simplement,
délicieux.
Pour les faire chez vous, vous prenez 250 g de ricotta ou de brousse que vous écrasez avec le jaune de deux gros œufs. Vous ajoutez délicatement 8 centilitres de lait en filet. Hop. Vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre, un petit peu. Alors là, j'ai mis de la fleur d'oranger, j'ai mis un zeste de citron. On peut mettre de la vanille, du rhum.
Mais vous savez que les Corses, je parle sous le contrôle de Nicolas Stromboni, et puis je suis un peu corse moi-même, sont quand même très familiers avec la fleur d'oranger. Hein.
Oui, c'était.
Alors pardon, j'ai la bouche pleine parce que j'étais en train de déguster.
Il y a beaucoup de viennoiseries.
C'est excellent. Moi, ça me donne plein d'idées, ça. Bravo.
Merci beaucoup. Bah, ce matin, j'ai un petit garçon qui les a mangés qui m'a dit : c'est bizarre, ça évoque les oreillettes. Je lui ai dit : ça, c'est la fleur d'oranger, en fait. Donc, je reviens à ma recette. Une fois que vous avez émulsionné la ricotta, le lait, les œufs, vous rajoutez 100 g de farine de blé ordinaire avec une cuillère à café de poudre à lever. Vous fouettez les blancs en neige. Ça, c'est très important pour avoir la texture un peu moelleuse aérienne. Vous mélangez les deux. Pendant ce temps, vous faites chauffer une poêle avec un peu de beurre et vous faites des tas, des cuillères à soupe de pâte. Attention, pour la cuisson, le secret des pancakes, c'est d'attendre que ça fasse des petites bulles en surface avant de les retourner. Là, vous êtes sûr qu'ils seront cuits à cœur et bien dorés à l'extérieur.
C'est une, j'allais dire une tuerie. J'aime pas tellement cette expression, mais j'en trouve pas de meilleure. C'est vraiment incroyable, très moelleux, ce petit parfum de fleur d'oranger. Effectivement, on évite le sirop d'érable sur ce pancake. Nous, on décide
du miel de maquis.
Du miel de maquis.
Allez, un petit
miel de maquis de printemps ou miel de châtaignier pour un peu plus d'amertume, puisque le miel est également un de ces nombreux produits qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée. Nicolas Stromboni.
Oui, on trouve 5 types de miel absolument fabuleux, et quand on goûte des miels, c'est un petit peu toute l'histoire. Le cheminement de la topographie de Corse, puisque on goûte des miels de bord de mer, de montagne, de plaine, des miels de châtaignier, c'est un voyage merveilleux et que je vous conseille de faire à toutes et à tous.
On se retrouve dans un instant et vous allez évoquer, évidemment, impossible de faire une émission sur la Corse sans une recette de fiadone, puisqu'on parlait à l'instant de brooch.
Kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run to the road. Welcome to jungle, dear, where lorries are chariots, railways are stairways to heaven, heaven is brightened. Go back home, 'cause if they find you, they will kill you.
Inter, rediffusion de l'émission On va déguster.
Prisout, toulons ou miel, veau, brooch, pas de doute, on est bien en Corse. Et nous avons un accompagnateur de choix, Nicolas Stromboni, qui a signé le livre Du pain, du vin, des oursins, dans lequel figure justement une recette, là encore, de grand-mère. Difficile de trouver une famille en Corse sans une recette de fiadone.
Vous avez vu, c'est compliqué de parler du patrimoine gastronomique de Corse, hein, François-Régis. Il est tellement vaste qu'on a peu de temps aujourd'hui pour le faire. Alors on va se concentrer sur deux, trois choses, mais il y a encore tout le reste. Fiadone, donc la base du fiadone, c'est bien entendu un brooch, un brunch qui doit être égoutté, si possible de la veille ou de l'avant-veille. Il faut qu'il ait perdu tout le petit lactosérum qu'il compose. Des œufs, du sucre, un petit peu d'alcool et des zestes d'agrumes. Alors ça peut être des zestes d'orange, des zestes de citron. Vous retrouverez la recette sur le site. Le seul principe, il y a un principe dans le brunch, c'est qu'il faut écraser le brunch à la fourchette. Il faut pas le couper, il faut pas le blender avec un mixeur. Ça, c'est la seule exigence pour faire un très bon fiadone. Le reste, c'est très très simple. On mélange les ingrédients, on blanchit le sucre avec les œufs, on les incorpore au brunch, on met l'appareil aromatique agrumes, plus l'alcool, et on enfourne à 180 degrés pendant 40 minutes.
Il est bon le vôtre ?
Il est surtout moelleux. On le fait dans un plat très très haut. Je vous invite à venir le goûter, François-Régis.
Il est meilleur que celui de ma grand-mère de Bastia ou pas ?
Incontestablement.
Ah, bon, on va bien s'entendre.
Un concours.
Est-ce qu'on est d'accord pour dire, c'est un peu un raccourci, mais souvent on définit, j'allais dire à l'étranger, quand on est en dehors de la Corse, on définit le fiadone comme le cheesecake corse. Est-ce que ça vous convient comme définition ?
Ça me gêne pas en tout cas.
Est-ce que le fiadone est bel et bien une recette d'hiver dans la mesure où ça suit la saison du brunch ? Faut-il préciser que ce brunch effectivement ne se produit encore selon l'appellation d'origine protégée que lorsque les animaux, les chèvres ou les brebis donnent le lait, allaitent, donc c'est-à-dire entre le 15 novembre et fin juin quoi.
Alors la vérité c'est qu'effectivement le fiadone se produit en fin d'automne, en hiver, au printemps, même au début de l'été puisque on a encore la chance d'avoir quelques bergers qui montent en estive et qui font du brunch jusque fin août. Bon, c'est quand même assez rare, mais on pourrait trouver du brunch fermier dans les montagnes de Corse, même au mois d'août.
C'est dans le titre de votre livre, le vin, évidemment, qui est tout à fait identitaire en Corse. Seulement, voilà, le problème avec le vin, c'est que longtemps, ils ont eu assez mauvaise réputation. Je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le compte d'une certaine arrogance des gens du continent. Toujours est-il qu'ils avaient un peu la réputation d'être des vins lourds, des vins du soleil, massifs, asséchants, voire écœurants. Cette vision des choses a totalement changé. La Corse, on peut le dire, est en pointe pour faire des vins exceptionnels, qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'au bistrot branché de Manhattan. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors moi, je dirais que d'abord, la Corse, le vin corse n'a jamais eu de réputation. Ça, c'est peut-être la première chose qu'il faut souligner. Et qu'aujourd'hui, si le vin corse est ce qu'il a aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il a 2600 ans d'histoire et qu'on trouvait déjà dans les ports de New York, pas l'île de Manhattan, dans le port de New York en 1850, trace de 150 000 bouteilles de muscat vendues quand on connaît les conditions d'approche dans ces époques-là. Alors, nous avons sous les yeux une bouteille de granit qui est un vin qui est rouge ou blanc. Là, on a amené une bouteille de vin rouge. C'est fait à base d'un cépage qui s'appelle le Chacarello. Nous avons donc deux cépages rouges, le Nieluche et le Chacarello, qui sont des cépages qui sont complètement opposés. Le Nieluche est tannique, sombre, un petit peu terreux. Le Chacarello est élégant, fin, altier, croquant.
Un peu comme un pinot noir.
Un petit peu le pinot noir.
Ah,
quand vous regardez la robe, quand vous regardez la robe de ce vin-là, c'est une robe qui est claire, transparente, lumineuse. Et c'est un vin qui est un petit peu qui pinote. Quand il vieillit, c'est un vin qui pinote parce qu'on connaît le vin corse jeune, mais on connaît pas le vin corse un peu plus vieux, voire très très vieux. C'est un vin, quand le millésime est bon et que le vinificateur est doué, c'est un vin qui peut aller très très loin dans le temps. On peut prendre un plaisir immense et on peut parfois confondre le Chacarello bien fait avec des grands Bourgognes.
Et ce vin précisément, géographiquement, on est donc au sud, hein, pas loin d'Ajaccio.
Alors le Chacarello, c'est un cépage qu'on retrouve plutôt sur la partie ouest de la Corse. Le Nieluche plutôt dans la partie est et dans le nord de la Corse. Mais on trouve également des vignerons qui assemblent les deux ou qui assemblent d'autres vieux cépages. Puisqu'effectivement, si nous avons ces deux cépages rouges qui sont complémentaires et totalement opposés, nous avons également la chance d'avoir un patrimoine ampélographique. Donc des cépages endémiques très très riches, puisqu'aujourd'hui on en dénombre 23.
D'ailleurs, il y a aussi en blanc, évidemment, le Vermentino qui est essentiel dans la...
Avec le même raisonnement, donc un cépage blanc pour l'AOP qui peut s'assembler avec tout un tas de vieux cépages pour donner des cuvées singulières et absolument délicieuses.
Quelle fraîcheur. Dites-nous un mot de ce vin granit. On est donc pas très loin d'Ajaccio, c'est ça. Gérard Courrèges notamment, le fils qui fait un travail exceptionnel.
Alors Gérard, donc c'est un vin qui est élevé un petit peu à la Bourguignonne dans des demi-muits comme on pourrait trouver des grands élevages de jolis vins en Bourgogne. Alors ce qui est assez bluffant, moi ce qui me bluffe toujours dans les vins encore, c'est que on a des vins qui sont effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, extrêmement méridionaux. Et quand on sort un petit peu des caricatures, parce qu'on est au sud, on fait des vins lourds. Nous, on est parce qu'on est au sud, mais parce qu'on est d'abord une montagne. On a plus de similitudes aujourd'hui avec des vignobles de montagne ou des vignobles ligériens que la Provence. Et à tort, on nous associe encore dans les écoles aujourd'hui. Il y a une grande région qui s'appelle Corse-Provence qu'on enseigne toujours aux élèves. J'aimerais bien que ça change un jour.
Pour goûter des vins corse, en tout cas, on peut aller dans votre bar à vin à Ajaccio, dont vous nous rappelez le nom, Nicolas Stromboni.
Le bar à vin s'appelle le Chemin des Vignobles. le bar à vin lui-même ne porte pas de nom.
D'accord.
Mais on peut goûter des vins corses quand on vient en Corse. Et je crois qu'on goûtera des vins corses jamais aussi bien que quand on vient hors des périodes d'été.
Nous sommes d'accord, à Patrimoine, au hasard, ou à Sartène et dans bien d'autres vignobles de Corse. Du pain, du vin, des oursins. C'est chez Marabout et c'est toutes les saveurs de l'île de beauté en 80 recettes. Merci beaucoup Nicolas Stromboni d'avoir fait escale sur notre plateau avec vos bouquets d'immortels séchés. Ça va sentir très très longtemps dans ce studio de la maison de la radio, je peux vous dire. Toutes les recettes qu'on a évoquées ensemble, y compris la recette délicieuse de pancake à la ricotta signée Esther El Payeni, les contacts des producteurs de Lenora Krief, le podcast de l'émission, tout ça c'est à consulter sur franceinter.fr à la page On va déguster. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.